Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
Et c'est avec Maxime Liedo qu'il va y avoir discussion. Nathalie, médecin urgentiste, François de Rugy. Peut-il revenir en politique? Va-t-il revenir en politique? Peut-il faire un retour au gouvernement? Il ne l'a pas exclu, c'est entre les mains du président de la République, dit-il. Moi, j'ai été blanchi et victime d'un lynchage médiatique. Extrait de Maxime, et il en parle avec Nathalie.
Il ne sait rien faire d'autre que de la politique. C'est ça aussi qui est gênant. C'est-à-dire que on est dans un monde où on fait quelques grandes écoles, on arrive député, on grandit, on a une région, on finit au gouvernement et en fait on ne sait faire que ça.
Donc il ne doit pas revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Il doit
rendre son mandat de député aussi.
Je pense parce que en plus il aime faire primer et avoir cette prétention d'être un homme d'État en faisant passer l'intérêt commun. Mais qu'il aille jusqu'au bout de l'intérêt commun, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre justement de jeune, de nouveau, le nouveau monde ça lui plaît. Tant mieux.
Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur, allez-y, Maxime vous écoute.
Bonjour chère Nathalie.
Bonjour. Premièrement, je pense que Monsieur de Rugy a fait de grandes écoles effectivement pour en arriver là et il ne sait effectivement pas faire probablement autre chose que de l'écologie. Moi, j'ai fait 12 ans d'études de médecine pour en arriver à être médecin. Si je devais changer de job aujourd'hui, honnêtement, je ne saurais pas quoi faire. Je pense que Monsieur de Rugy est un excellent ministre. Je pense qu'il est tombé dans un grand piège qui a été talonné, comme d'habitude, par Mediapart. Mediapart a successivement fait tomber Cahuzac, Fillon, Benalla, Le Pen, de Rugy. Le même genre de journaux ont été responsables du suicide de Bérégovoy il y a quelques années. Je pense que Mediapart devrait vérifier largement ses sources avant d'attaquer les gens, ce qui est, à mon avis, leur seul but. Je pense que Monsieur de Rugy, une fois que tout ça sera passé, parce que je pense qu'on en a beaucoup rajouté. Qu'est-ce que la France en a à faire aujourd'hui de voir des kilos de homards sur les écrans de télé? Ce n'est pas le problème de la France. La France s'en fout de ça. On a d'autres problèmes à régler aujourd'hui que de savoir combien de kilos va manger Monsieur de Rugy à table ou pas. Surtout que ce monsieur a été blanchi donc par les différentes commissions. Les trois seuls dîners sur lesquels a bien insisté Madame de Malherbe hier, qui m'a beaucoup déçue en tant que journaliste, pour laquelle j'avais je la trouvais très bien, mais depuis c'est fini. Je pense que ces trois dîners, il a dit qu'il les rembourserait. Quand il a été invité, oui, vous marrez un peu,
je vous écoute attentivement, mais je regardez simplement le chrono pour que Maxime ait le temps de vous répondre, si vous pourrez être très, très franc avec vous, Nathalie.
Je voulais dire une dernière chose, que moi je pense que Monsieur de Rugy, j'espère de tout cœur, même si je ne suis pas dans la majorité, reviendra au gouvernement parce qu'il en est tout à fait capable. Je pense que ce sera un meilleur ministre de l'écologie que Madame Elisabeth Borne.
Alors, réponse à Nathalie. Maxime.
Vous avez confirmé la théorie des grandes écoles. Ensuite, sur le fait que le blanchiment du ministre de Rugy et ses attaques par Mediapart, je partage le point de vue. Maintenant, de là à dire qu'il était un excellent ministre, non, en fait, pas du tout, parce qu'il n'a pas réussi à conclure le fameux loi de transition énergétique, je crois, qui promettait jusqu'en 2022 la fermeture des différentes centrales qui avaient été actées, il me semble, au Sénat quand c'était Nicolas Hulot. Et c'est même Nicolas Hulot qui avait préparé cette loi. Donc, vous voyez, ce n'est pas brillant. Et le bilan que je n'ai pas le temps de vous développer en à peine quelques secondes au sein de son ministère est plus que très maigre. Donc, non, je ne pense pas que c'était un bon ministre de l'écologie. Et honnêtement, je me souviens d'un papier de Pascal Praud dans le Point qui expliquait ça. Le problème de François de Rugy, c'est qu'il n'était pas charismatique. Il n'était pas à sa place en tant que ministre. Personne ne l'a soutenu. Il était creux, il n'était pas bon médiatiquement, il n'était pas persuasif, il ne savait pas communiquer. Donc je pense que ça, mis bout à bout, pas de bilan, pas de personnalité, plus affaire au cul, égale démission.
Voilà Nathalie, la réponse du camarade Maxime Liedo. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors attendez Philippe. Juste, Philippe, qui voulez-vous reparler en un mot?
Mais je voulais parler avec, si vous me l'accordez, avec David. Parce
de
que,
De quoi, de qui
De quoi, de qui? Mais de l'affaire de Rugy.
Eh bien, mon cher Philippe, c'est à vous dans 50 secondes, très exactement, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.
Alain Marchal.
Encore un qui se prend pour le fils de Dieu.
Les grandes gueules.
Non, ça va chier.
Les GG, les grandes gueules, suite du GG, vous, c'est avec Philippe qui veut reparler donc de François de Rugier avec David Dickens. Petit extrait de David d'abord.
C'est pas vraiment si c'est Mediapart qui a raison ou si c'est Rugy qui a raison. Juger de la capacité à faire son boulot d'un homme politique sur un sèche-cheveux, un taxi, sur ses enfants et finalement trois dîners, est-ce que c'est pas non plus, est-ce que ça ne révèle pas un problème? Est-ce que ça va pas nous amener demain à voir nos jeunes futurs politiques à se dire, mais moi je vais pas m'emmerder à faire de la politique alors que je sais très bien qu'on va s'attacher à me mettre des bâtons dans les roues?
Philippe, allez-y, David vous écoute attentivement.
Oui, voilà, bon, mais David, un petit coucou et un petit bonjour, amical, ça c'est le plus important.
C'est le plus important.
Et bonjour à l'équipe aussi, parce que vous le méritez.
Vous êtes d'où, pardon?
Je suis de Bordeaux, mais je vis à côté de l'océan. On peut vous parler des vagues tout à l'heure. Ça, j'aurais pu vous en parler et tout, parce que je suis un surfeur depuis 40 ans, voilà, et président de club de surf. Non, ce que je voulais dire, David, si je peux me permettre, avec tout le respect que je vous dois, je ne comprends pas, je vous le dis en toute sincérité, je sais vos appétences politiques qui sont de LRM, on le sait, moi,
mais je ne suis pas une groupie pour autant.
Elles sont de l'autre côté, c'est-à-dire moi, Fillon, on l'a détruit et je suis resté avec lui, je n'ai jamais voté Macron, jamais. Maintenant, pour en revenir sur l'affaire de Rugy, je vous rejoins, un peu quand même en disant, c'est facile d'accabler un homme, surtout quand il est en responsabilité politique et tout ça, mais ceci dit, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu un abus. Et que quand on met les doigts dans la confiture, quelle qu'elle soit, elle n'a pas une égide de sortie. Voilà. Et quand cet homme-là se met chez Jean-Jacques Bourdin, que j'apprécie beaucoup, pleure, vous imaginez, et puis qu'après, devant la personne de RMC, il se sent un peu plus conforté et un peu plus sûr de lui, et je vais peut-être rentrer dans le gouvernement. Non,
je suis libéré, il a dit. Je suis libéré, c'est la reine des neiges.
S'effacer. Et parce que moi, je vais vous dire une chose, vous avez votre identification politique que je ne souhaite pas dans cette émission. Cette émission, elle est bravo. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, gardez-la.
Donc là, vous reprochez peut-être à David d'être trop en
oui.
Comment on pourrait dire, en... Je cherche le mot.
En complaisance
avec François de Rugy, voilà, parce que tu as jamais fait mystère que tu avais fait campagne pour la REP, mais sans être une groupie.
Voilà,
vas-y,
exactement.
David. Alors
en plus, je ne sais pas si vous avez. Vous avez entendu ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il avait été mauvais dans sa stratégie de défense, qu'il a été, il était sincère chez Bourdin, mais que ça ne l'a pas servi. J'ai souligné que effectivement l'argument consistant à dire qu'il n'y avait pas de cuisine, il était absolument irrecevable. Donc je crois que vous vous trompez en disant cela. Par contre, ce que je dis moi, et ce que je déplore, et ça se reproduit à chaque fois, c'est qu'on a un bordel, pardonnez-moi l'expression, mais je n'en vois pas d'autre pour qualifier ce dans quoi on nous a mis de force là. On nous parle de ça tous les jours, on a l'impression que le type a braqué la Banque de France et que à la fin, on ne sait pas où est la vérité. Aujourd'hui, vous êtes incapable, comme moi, de dire où se situe la vérité.
Philippe,
vous avez une commission, une commission qui dit qu'il est blanchi, vous dites qu'il ne l'est pas. Vous avez des institutions qui lui permettent de revenir en tant que député, c'est pas moi qui décide en tant que La République En Marche, ce sont nos institutions qui lui permettent, à partir du moment où il démissionne de son poste de ministre, d'être député.
Voilà,
vous comprenez
Philippe,
ce que je veux dire.
Voilà Philippe, la réponse de David. On va terminer le GG vous avec Maxime Liedo et Patricia à propos des permanences de députés qui sont vandalisées.
évidemment qu'il y a une banalisation de la violence. Une fois de plus, on n'a même pas besoin de remonter à un an. 6 mois suffisent pour voir. Regarde le nombre de fois où on a vandalisé des domiciles de députés, qu'on a pendu en place publique des mannequins du président. C'est certes symbolique, mais il y a quand même quelque chose de choquant. Et on a la chance d'être dans une démocratie. Le quart de ceux qui feraient se retrouveraient au goulag.
Patricia, bonjour, chauffeur de taxi.
Oui, bonjour à vous tous, c'est Grande Gueule.
Allez-y.
Oui,
bonjour Patricia.
Je voulais interpeller Maxime Yedo parce que il est facile de dénoncer la violence quand on est plus ou moins, enfin quand soi-même on est plus ou moins, on a 3 repas par jour. Vous savez, la violence depuis plus de 30 ans concernant nos agriculteurs, eh bien on les a sacrifiés sur l'autel de la mondialisation à coup de normes françaises et de normes européennes. Et qu'en parallèle, on ose faire signer des traités comme le TAFTA, le CETA, hein, alors qu'on ne sait pas alimentaire des animaux qui vont être importés en Europe, entre autres en France, parce que je ne suis pas une Européenne, je suis une Française. Et que, voilà, la vraie violence, elle est là. Et qu'on ose, en plus de ça, vous parler d'écologie, je ne vois rien d'écologique dans ce traité-là. Rien. Donc il faut arrêter d'emmerder les Français, il faut arrêter d'emmerder nos agriculteurs, il faut arrêter d'emmerder nos policiers qui font leur travail quotidiennement. Il faut que nos élus prennent conscience du mal-être des gens qui travaillent en France, des gens vraiment qui travaillent en France, et que les juges jugent véritablement les racailles.
Patricia, si vous permettez, excusez-moi, parce que là, vous allez loin, vous parlez de la colère, donc en fait, par rapport au mal-être du pays, vous dites, cette dégradation des permanences par les agriculteurs est légitime. Vous la comprenez, monsieur Maxime Liedo.
Cher Patricia, d'abord, par rapport à ce que vous avez dit sur les agriculteurs, je suis assez en accord avec vous, dans le sens où, lorsque Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, était là vendredi dernier, elle n'a pas voulu répondre à certaines questions gênantes, mais nous y reviendrons plus tard. Mais par rapport au fait de la justification, je condamne justement ces violences envers les élus, dans le sens où je suis peiné de voir que nous sommes obligés d'en arriver à de telles violences, à de telles mises en scène et à de telles violences médiatiques pour justement avoir l'impression d'être écouté, pour avoir l'impression de toucher les gens, pour avoir l'impression de les sensibiliser sur des sujets qui devraient tous nous concerner à un moment ou à un autre, qui devraient tous normalement déjà nous interpeller. Et évidemment que les politiques ferment les yeux sur une certaine souffrance que parfois eux-mêmes provoquent avec certaines lois. Néanmoins, il est injustifiable de les attaquer, de les vandaliser, ou bien même de les insulter ou de les menacer, comme on voit régulièrement. Parce que surtout ceux qui sont en place actuellement, surtout ceux-là, ne sont en aucun cas responsable de ce qui se passe depuis 40 ans. Il l'aggrave, certes, peut-être, mais on est dans une démocratie. La plupart des gens feraient une seule, mais une miette de ce qu'ils seraient en train de faire dans d'autres pays. Ils seraient au goulag. Donc, profitons de cet espace de démocratie pour s'exprimer. Parfois, peut-être, certes, avec véhémence et de façon très franche, mais ça ne mérite pas l'incendie ou la vandalisation des permanences.
Voilà, Patricia, la réponse de Maxime. On se retrouve demain de 9h à midi. Les GG, les grandes gueules, toujours en direct à la télé sur RMC Story, à la radio sur RMC. Étienne Liebig, Elina Dumont, Barbara Lefebvre et l'humoriste Jean-Marie Bigard demain dans Les Grandes Gueules. Ah, c'est Fatima Hildebounois. T'es content de ne pas être là demain?
Non.
Au contraire.
Allez, bonne journée et à demain 9h.
RMC, Les Grandes Gueules.